9h-10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, demain des maires islamistes possibles pour François Pupponi, maire de Sarcelles pendant 20 ans, qui sonne l'alarme sur l'islam des ténèbres qui a pris possession de certaines banlieues avec l'aide de ce qu'il appelle la gauche niqab. François Pupponi publie les Émirats de la République, il sera l'un de nos invités. Demain, un nouveau système de retraite, le projet qui sera présenté vendredi prochain au Conseil des ministres est celui d'un régime à points, mais surtout pour l'instant à point d'interrogation. Est-ce qu'on va encore compter en trimestre? Comment se fera la transition? Que signifie cette tâche d'équilibre qui va se mettre en place dès 2022 et va remplacer les trimestres pour l'attribution du taux plein? Question compliquée mais essentielle qu'on va aborder avec l'un de ceux qui connaît le mieux le système actuel. Pierre Mailleur a dirigé l'assurance vieillesse pendant 7 ans. Il a été le monsieur retraite de François Fillon pour la réforme de 2003 et sera avec nous dans un instant. Enfin demain, le grand retour de Louis Chédid qui viendra en avant-première, nous parler de ses nouvelles chansons. L'album sortira fin février, avant une série de concerts. Louis Chédid dans « C'est arrivé demain, ainsi soit-il ».
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Pierre Mailleur.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous avez dirigé la CNAV pendant 7 ans, la Caisse d'assurance vieillesse, qui est en fait la branche retraite du régime général de la Sécurité sociale. Vous dirigez aujourd'hui un organisme de prévoyance. Auparavant, vous avez travaillé avec François Fillon à Matignon, mais aussi au ministère des Affaires sociales. Vous avez préparé la réforme de 2003, c'est dire que vous avez lu l'avant-projet de loi instaurant un système universel avec un œil averti, très averti. Vous en avez tiré une analyse très intéressante qui permet, je crois, de clarifier ce débat toujours très confus pour beaucoup de Français. Vous dites qu'il n'y a pas une, mais trois réformes qui sont engagées. Et la première, celle dont tout le monde parle, le futur système à points, ne s'appliquera pleinement qu'au milieu des années 2060. Expliquez-nous.
Alors effectivement, j'ai souhaité faire une analyse objective de l'avant-projet de loi. Je n'ai pas souhaité prendre position pour ou contre la réforme. Je pense que ce n'est pas forcément ma position, ce n'est pas forcément, je dirais, mon choix de le faire. En revanche, ce que j'ai souhaité décrypter, c'est effectivement les trois réformes profondes qu'il y a dans cet avant-projet de loi. Parce qu'il y a une première réforme qui est, dont on parle tous, qui est la réforme, la transformation de 42 régimes en un seul régime ou un régime universel à points. Mais c'est vrai que cette réforme, finalement, elle va concerner pleinement les personnes qui sont nées en 2004. C'est-à-dire des personnes qui vont prendre leur retraite, par définition, par construction, au milieu, à partir du milieu des années 2060.
Alors attendez, moi je croyais que ce serait à partir de 2037 pour la génération 75.
Oui. Parce qu'effectivement, à partir de 2037 et à partir de la génération 1975, effectivement, la pension de retraite sera calculée en points. Mais elle aura été calculée avec une conversion qui tiendra compte des années de cotisation qui ont été réalisées avant 2025.
Donc une conversion des droits en points, à partir de quand?
Donc ça veut dire qu'en fait, une personne née en 1975... elle va voir en 2025, elle va commencer à cotiser dans le nouveau système. Et lorsqu'elle va arriver à la retraite à partir de 2037, on va lui calculer une pension de retraite qui va être calculée pour partie, pour la plus grosse partie, avec les droits actuels, mais qui auront été convertis en points. Et puis pour la petite partie, de 50 ans à 62 ans ou 64 ans, avec le nouveau système en points.
Des trimestres donc convertis en points, ça veut dire que d'ici là, d'autres gouvernements, d'autres parlements pourraient modifier les règles du système, Pierre Mailleur?
Ça veut dire que le système, forcément, le fait de s'interroger sur, de savoir si le point est plus juste ou moins juste, s'il prend bien en compte telle ou telle situation, si l'ensemble des questions qui sont posées peuvent apporter des réponses, tout ça peut effectivement être rediscuté de manière régulière.
On a le temps et on aura le temps de procéder aussi à des calculs individuels qui n'ont pas pu être faits jusqu'ici pratiquement.
Voilà, c'est vrai que c'est la difficulté de prévoir, de prédire pour des personnes qui sont encore assez éloignées de l'âge de la retraite un montant de retraite. Ouais. Je rappelle au passage que dans le système actuel, on reçoit tous les 5 ans un relevé à partir de 35 ans, à partir de l'âge de 35 ans, on reçoit un relevé individuel de situation, donc qui donne la situation, les trimestres qui ont été validés par rapport à la retraite. Et à partir de 55 ans, on reçoit une estimation indicative globale, donc le montant estimé de la retraite avec évidemment des hypothèses selon est-ce que vous allez travailler jusqu'à 62 ans, est-ce que vous allez travailler jusqu'à 64 ans, est-ce que vous allez travailler jusqu'à 67 ans.
Alors c'est un argument qu'on a beaucoup entendu, c'est que le futur système permettra aux futurs retraités d'y voir plus clair, de connaître mieux le montant de leur pension.
Ben, c'est-à-dire que c'est un système en points. Donc c'est vrai que le point, il y a la valeur du point, la valeur d'achat du point, c'est-à-dire quand je travaille, combien ça vaut, en quelque sorte, en retraite. Et puis il y a au moment où la retraite est liquidée et tout au long du service de la pension, la valeur de service, c'est-à-dire combien vaut effectivement cette retraite. Donc, par définition, par construction, on passe d'un système où il y a des personnes qui cotisent à plusieurs régimes et qui ont donc au moment de la retraite plusieurs pensions de retraite, à un système où on a une seule pension de retraite. Donc de ce point de vue, effectivement, par définition, c'est plus simple.
Et qu'on peut évaluer, qu'on pourra évaluer plus facilement avant 55 ans, c'est-à-dire avant le moment où on vous donne aujourd'hui le calcul et la projection.
Aujourd'hui, très sincèrement, le droit à l'information retraite, il a quand même, en France, il a quand même énormément progressé. Et il y a beaucoup d'estimations également qui sont disponibles évidemment par Internet, sur les sites Internet des grandes caisses de retraite.
On a souvent donné l'exemple des polypensionnés, c'est-à-dire de personnes qui ont fait des carrières dans le public, dans le privé, donc qui ont cotisé à différents régimes de retraite. Votre expérience de directeur de la CNAV, ils ne sont pas très nombreux, ces gens-là ?
Alors, si, ils sont nombreux, mais simplement, ce sont souvent des personnes qui ont commencé effectivement à travailler dans le secteur privé, comme salariés, et qui ont rejoint la fonction publique au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, du coup, la pension de retraite aujourd'hui qu'ils ont du régime général et des régimes complémentaires Agirc-Arrco, c'est une pension qui est assez faible. Le gros de la pension, il va venir de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale ou hospitalière.
Pierre Mayer, vous restez avec nous. Après une pause, vous allez nous expliquer le point central de la réforme qui est aussi le plus obscur parce qu'on n'en a pas débattu quasiment, l'âge d'équilibre.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Avec Pierre Mayer, qui a dirigé pendant 7 ans le régime de retraite de la Sécurité sociale et qui analyse pour nous le projet du gouvernement, lequel comprend, dites-vous, une deuxième réforme systémique. C'est le plus épineux, c'est le dispositif d'âge d'équilibre qui va venir remplacer la durée d'assurance, c'est-à-dire le nombre de trimestres.
Voilà, moi je pense que là c'est le cœur du projet de loi en fait, c'est effectivement la définition pour l'ensemble des régimes de retraite actuels d'un âge d'équilibre. Alors cet âge d'équilibre, on ne détermine pas dans la loi et le gouvernement avait dans un premier temps déterminé que c'était 64 ans en 2027.
C'était l'âge pivot.
Il a retiré cette disposition, mais la notion, le concept d'âge d'équilibre, il reste dans la loi.
Qui sera défini comment ?
Il sera défini par le conseil d'administration de la Caisse nationale de la retraite universelle.
Pour chaque génération, c'est-à-dire qu'il peut changer chaque année ?
Il peut évoluer en fonction, effectivement, notamment de l'augmentation de l'espérance de vie. C'est dit clairement dans le projet de loi. Mais cet âge d'équilibre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui régit l'ensemble des régimes de retraite, qui a permis une forme d'harmonisation entre des régimes qui appliquaient et qui appliquent des règles de calcul différentes. C'est la notion de durée d'assurance tout régime. C'est-à-dire, en fait, on a cette question qui est une question assez populaire et qui arrive assez fréquemment en fin de carrière professionnelle. Est-ce que tu as tous tes trimestres ? Voilà. Ça, et je pense que cette notion, on dit que la retraite c'est complexe, on dit que les Français n'y comprennent rien. Je pense que cette notion, elle est comprise sur la durée d'assurance pour avoir effectivement ce qu'on appelle le taux plein. C'est-à-dire l'assurance d'avoir une retraite où il n'y a pas d'abattement, où il n'y a pas de décote. Bon. Donc tous les régimes de retraite aujourd'hui sont fondés sur cette notion. C'est-à-dire que vous arrivez à l'âge de 62 ans, à l'âge d'ouverture des droits, si vous avez tous vos trimestres, eh ben vous pouvez partir à la retraite à taux plein.
C'est clair.
C'est le choix que font la très très grande majorité des personnes qui sont dans cette situation. Bon. Là, le dispositif qui est proposé est un dispositif différent, parce qu'il prévoit effectivement un âge d'équilibre, dont on ne sait pas, évidemment, à ce stade, à quel niveau, à quel âge il va être réellement fixé, mais un âge d'équilibre qui peut être évidemment différent de l'âge d'ouverture des droits. Et le fait d'avoir un âge d'équilibre qui est différent de l'âge d'ouverture des droits, ça veut dire que les personnes, même si elles ont tout leur trimestre demain à 62 ans, elles sont susceptibles de devoir attendre un an de plus, deux ans de plus, trois ans de plus avant d'avoir leur pension, d'avoir l'assurance qu'elles vont avoir l'intégralité de leur montant de pension.
Cet âge d'équilibre, il sera valable pour tout le monde, quelle que soit la date d'entrée dans la vie active, l'âge d'entrée dans la vie active.
Cet âge d'équilibre, il va être, il est différencié, puisque effectivement, d'ores et déjà dans le projet de loi, dans l'avant-projet de loi, il y a les carrières longues. C'est-à-dire les personnes qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et qui ont une longue durée de cotisation, aujourd'hui dans le système, elles peuvent partir à 60 ans, hein, et elles ont tout leur trimestre à 60 ans, et elles ont le taux plein, elles n'ont pas de décote. Dans le système, demain, elles pourront toujours partir effectivement avant l'âge d'équilibre, et leur âge d'équilibre sera, pour ces personnes qui ont une durée de cotisation longue, les longues carrières, sera de 2 ans inférieur à l'âge d'équilibre pour l'ensemble de la population. Mmh. Donc la situation des carrières longues a été prise en compte par l'avant-projet de loi.
Vous aviez raison de le dire, cet âge d'équilibre, c'est une notion absolument essentielle et qui, pour l'instant, avec l'âge pivot, la mesure d'âge pivot qui avait été présentée au départ, n'a pas été du tout présente et discutée dans le débat
Mais
public.
Mais surtout, cet âge d'équilibre, il est censé s'appliquer pour les générations nées à partir de 1960. Mmh. Donc ça concerne évidemment beaucoup plus de Français que les générations nées après 1975. Et il va s'appliquer dans l'état actuel des régimes, sur les régimes eux-mêmes, hein, sur les régimes de retraite existants. C'est ça qui est, je crois, essentiel.
Ça veut dire qu'on pouvait faire l'âge d'équilibre sans faire un régime à points.
Exactement. Et d'ailleurs, le gouvernement met en avant le fait que c'est une avancée sociale. Considère que c'est une avancée sociale parce que, effectivement, dans le dispositif actuel de la durée d'assurance, tout
les,
régime.
Les 43 trimestres
avoir,
à terme.
Voilà, oui. Pour avoir le taux plein, il faut, si on a une faible durée de cotisation, il faut attendre l'âge de 67 ans, ce qu'on appelle l'âge du taux plein, par défaut, pour avoir une retraite sans décote. Et ce que met en avant le gouvernement, c'est qu'il dit, dans cette population qui attend l'âge de 67 ans pour procéder au calcul de sa retraite, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations qui ne sont pas favorables, et du coup, le fait de définir un âge d'équilibre à 64 ans, eh bien, il y a des « perdants », entre guillemets, qui sont les personnes qui pouvaient liquider à 62 ans et qui vont devoir attendre 63, 64, 65. Mais il y a des gagnants, là aussi avec des gros guillemets, qui sont les personnes qui devaient attendre 67 ans pour avoir le taux plein et qui pourront prendre leur retraite à 64, 65. Voilà, c'est ça, je crois que c'est vraiment un changement effectivement de paradigme, un changement de moteur. Ce n'est pas seulement un paramètre. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une réforme paramétrique, c'est une réforme systémique de l'ensemble des régimes de retraite pour préparer, évidemment, la future réforme à point dont on a parlé. Mais il est clair que cette réforme de changement, de mettre à la place d'une durée d'assurance tout régime un âge d'équilibre, c'est une réforme qui aurait pu être faite et qui peut être faite sans mettre en place un régime unique en points.
Une question enfin qu'on a beaucoup débattue, Pierre Mailleur. La valeur du point, est-ce qu'elle peut être raisonnablement garantie, sanctuarisée ?
Moi, je pense c'est important, effectivement, de mettre en avant, parce que cette question, elle a été posée, évidemment, au gouvernement très rapidement sur savoir, mais la valeur du point, est-ce que vous pouvez la garantir ? Bon. On ne peut jamais préjuger de ce qui peut se passer demain. On sait qu'on a connu des chocs de crise économique qui ont été quand même très importants et très... avec des conséquences très graves, notamment en 2008, on a eu un choc économique extrêmement important sur l'ensemble de la protection sociale, et c'est d'ailleurs à la suite de ce choc qu'il y a eu le relèvement de l'âge de 60 à 62 ans, qui a quand même permis d'apporter des réponses au déséquilibre. Donc le fait de s'engager, par définition, le fait de s'engager mordicus sur... une valeur de points qui ne pourrait en aucun cas baisser, c'est un engagement qui peut être pris dans la loi, mais ça a une valeur très forte. Mais un engagement qu'a pris une loi, une autre loi, peut évidemment le défaire. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même garder des possibilités de sécurité et de souplesse, en sachant que, bien évidemment, dans la très grande majorité des cas, on n'aura pas chaque année une crise économique de même ampleur que celle de 2008. Donc on peut penser raisonnablement qu'on sera à l'abri d'une baisse de la valeur du point.
Merci beaucoup Pierre Maillard. Je rappelle que vous êtes un ancien directeur de la CNAV, la Caisse d'assurance vieillesse. Merci à vous.
Europe 1. C'est arrivé demain, on se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour François Pupponi.
Bonjour.
Député du Val d'Oise, ex-PS, vous avez rendu votre carte après la dernière présidentielle. 55 ans passés à Sarcelles, dont 20 ans comme maire, banlieue nord, 15 km de Paris, ville dominée par un très grand ensemble, comme on disait jadis. Mais la réputation de Sarcelles, vous le rappelez au début de votre livre, Les Émirats de la République, sa réputation c'était de faire cohabiter plutôt bien des Français d'origine, des Juifs rapatriés d'Afrique du Nord, des chrétiens d'Orient et des familles immigrées du Maghreb et d'Afrique noire, lesquelles ne portaient pas leur religion musulmane en bandoulière. Quand est-ce que ça a commencé à se détraquer ?
C'est début des années 2010, et puis le basculement, c'est la manifestation antisémite de 2014. Juillet 2014, là où il y a la haine du juif qui est exprimée dans la rue, avec un début de pogrom, puisque des magasins ont été brûlés, la ville a été mise à sac. C'est là où on a vraiment compris que les choses avaient complètement changé, et que la cohabitation pacifique entre toutes ces communautés, qui continue aujourd'hui, était aujourd'hui l'objet d'une attaque d'un certain nombre de réseaux qui voulaient prendre possession de la ville et du pouvoir, et qui n'étaient pas dans une logique de respect mutuel.
Vous écrivez qu'ils ne sont pas nombreux, ces militants islamistes, 100 à 200, pas plus, moins de 5% de la communauté de culture musulmane, mais qui harcèlent et terrorisent la totalité d'entre elles et font vivre un enfer à 60 000 habitants.
Oui, parce qu'ils sont présents tous les jours, ils infiltrent tout le champ économique, éducatif, social, culturel, et on sent que la pression est en train de monter et que l'ensemble des acteurs, y compris de la communauté musulmane de Sarcelles, l'ensemble est inquiet parce qu'ils se disent, mais voilà, c'est pas ce qu'on veut, nous. Donc ils s'y s'opposent pour l'instant. Il y a des villes où malheureusement ils ne s'y opposent plus parce qu'ils ont pris le pouvoir, et ils nous disent, mais on est tétanisés par ce qui se passe, aidez-nous.
Vous racontez les commerçants qui déménagent, le départ du dernier boucher charcutier européen du marché du Grand Ensemble, sous la pression de militants radicaux ?
Alors, lui, il a quitté d'abord le Grand Ensemble, où il était historiquement le boucher du marché.
Du marché.
Et puis, régulièrement, des gens venaient devant son étal, crachaient sur le porc, ont même frappé sa femme, lui ont cassé le doigt en lui retournant le doigt. Voilà. Et donc, à un moment, il a vendu son étal, il s'était après installé, ensuite il a quitté carrément la ville. Mais oui, à un moment, il considérait qu'il ne pouvait plus vendre du porc sur le marché parce que la pression était trop forte, les insultes étaient systématiques.
La tentative de prise de contrôle de la MJC, ce que vous racontez est assez édifiant, avec des adhésions en masse, un entrisme, une tentative de passage en force dans les réunions de dirigeants. Les parents invités à retirer leurs enfants de l'école pour suivre un enseignement à domicile.
Oui, ça, le basculement, moi je l'ai vécu et vraiment compris lorsqu'il y a eu tout le débat sur la théorie du genre. On voyait que ça montait dans les quartiers en disant c'est scandaleux, on veut confier nos enfants à des homosexuels, on veut en faire devenir des pédophiles, bref, tout ce qui se disait à l'époque sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai organisé une réunion publique avec les parents d'élèves pour discuter avec eux. Et là, c'est principalement des femmes de la communauté musulmane qui ont lu, des jeunes, structurés, éduqués, diplômés. Et le discours, c'était « mais votre école ne s'occupe pas de nos enfants ». Et pendant la réunion, une femme a pris la parole en disant « écoutez, nous, on a des écoles, confiez-nous vos enfants, vous verrez qu'on s'en occupera mieux ». Et là, on a vu petit à petit des parents sortir leurs enfants de l'école publique, ce qui est légal, et confier ensuite, alors là, ce qui est moins légal, soit des écoles hors contrat, ils ont le droit, soit des associations en le faisant officieusement. Et c'est plusieurs dizaines, on est presque à 70-80 par an, d'enfants qui sont ainsi sortis de l'école publique et confiés soit à des écoles privées hors contrat, soit à des associations qui s'en occupent la journée.
Et alors, ce qui frappe dans votre livre, c'est l'inertie des pouvoirs publics. À chaque fois que vous les alertez, le préfet du Val-d'Oise, le procureur de la République, le rectorat, presque à chaque fois, on vous dit « ah ben non, on peut rien faire ».
Oui, c'est souvent ce qu'on me répond. Je prends l'exemple, il y a deux écoles, c'est celles qui sont proches des réseaux salafistes. Une qui s'est mise hors contrat et qui est contrôlée, et puis une autre, on voit des enfants rentrer le matin et sortir le soir. Ça fait globalement 10 ans que je l'ai signalé. L'éducation nationale m'a répondu que comme ce n'était pas une école déclarée, pour eux ce n'était pas une école. Et puis, alors, les services de renseignement vont voir ce qui se passe.
Donc, on ne peut pas fermer une école qui n'en est pas une.
Ben, globalement, l'éducation nationale me dit « ce n'est pas mon problème, ce n'est pas une école ». Donc, comme ce n'est pas une école, ce n'est pas à m'en occuper. Les services de renseignement surveillent, regardent, et en fait, on voit bien que parfois, l'État n'arrive, souvent l'État, en tout cas, n'arrive pas à prendre la décision. Souvent, le ministre de l'Intérieur revendique l'expulsion d'imams ou la fermeture d'école, mais on sent que c'est très symbolique pour dire « on fait quelque chose », mais que dans les faits, localement, l'appareil d'État a quand même du mal à avoir une vraie stratégie et une vraie politique de lutte contre ces réseaux-là.
Résultat, vous l'écrivez dans votre livre, on peut réunir des dizaines d'enfants tous les jours pour les endoctriner sans que personne dans l'administration française n'y trouve à redire. François Pupponi, vous fustigez longuement les islamo-gauchistes ou ce que vous appelez la gauche niqab qui fait la courte échelle aux islamistes, notamment les fréristes qui ont développé une stratégie d'entrisme dans beaucoup de quartiers.
Oui, moi je l'ai vécu personnellement lors de la campagne des législatives puisque je me suis retrouvé au deuxième tour contre Samy Deba, qui est le président fondateur du comité contre l'islamophobie en France.
Qu'il a quitté depuis.
Dont on dit qu'il serait proche, je mets les guillemets parce que je n'ai pas encore envie de me retrouver au tribunal pour diffamation. Et donc, il serait proche des Frères musulmans. Et donc, au deuxième tour, il se retrouve contre moi. Et la candidate de la France insoumise appelle à me battre. Et donc, à soutenir Samy Deba au deuxième tour. Et les assesseurs de la France insoumise du premier tour ont même tenu au deuxième tour des bureaux de vote pour Samy Deba.
Et demain, une mairie dirigée par des islamistes. Oui, donc la ville, bah, il se trouve qu'il est candidat. Mais oui, on ne va pas développer son cas. Mais vous me dites, la mairie de Garges-lès-Gonesse pourrait basculer aux prochaines élections.
Oui, parce qu'au deuxième tour de la législative, je l'ai battu largement sur la circonscription, mais sur Garges-lès-Gonesse, il a fait 56% des voix au deuxième tour.
Mais s'il obtient une majorité, ça prouverait que son élection dépasse le vote communautaire.
C'est clair. Parce qu'en fait, il est capable de présenter un programme acceptable par tout le monde. Hein, la sécurité, la propreté, la rénovation. Mais on sait très bien que derrière, il est avec certains réseaux, et que sa vision de la France, c'est quand même d'essayer d'imposer une manière d'un islam relativement rigoriste et de faire en sorte que la France accepte un certain nombre de règles. C'est le principe des Frères musulmans un peu partout dans le monde. Et donc, ce n'est pas propre à notre pays, à ses banlieues. Mais là, on voit bien que les choses sont en train de se mettre en place.
Mais c'est un islam qui reste très minoritaire chez les musulmans de France, comme on dit, ou même à Sarcelles.
Oui, il est extrêmement minoritaire. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène générationnel. Les détenteurs de cet islam-là sont jeunes, souvent diplômés, formés, militants, financés, ou bien qu'ils ont des moyens, qu'ils sont capables de faire des campagnes de qualité avec des moyens importants. Et c'est eux qui sont en train de d'importer. Alors que les détenteurs d'un islam respectueux des règles de la République, qui ne posent aucune difficulté, la quasi-totalité des musulmans de ma circonscription, et c'est le cas en France, ne posent aucune difficulté.
Et qui ne se revendiquent pas en premier lieu comme musulmans.
Absolument. Ceux-là sont plus âgés. Et donc on voit bien qu'est en train de se produire un basculement et que si on n'y prend pas garde, ce sont les détenteurs de l'islam-là qui petit à petit seront majoritaires.
Alors vous en appelez au président de la République. Le gouvernement, écrivez-vous, ne semble pas avoir les idées claires ni avoir pris la mesure du danger. Le JDD de ce matin nous apprend qu'Emmanuel Macron cherche un plan. Que devrait-il faire en priorité ?
Mais d'abord, il faut qu'on... je pense qu'il le sait, que c'est un des sujets de préoccupation des Français. Les musulmans de France demandent à la République de se prononcer sur sa place dans notre pays. Voilà. On l'a dit aux juifs au début du 19e siècle, le Concordat, on l'a dit aux catholiques en 1905, là il faut qu'on parle aux musulmans, et les musulmans le revendiquent en disant voilà, nous existons, nous ne voulons plus nous cacher, nous voulons vivre notre foi, mais c'est quoi les règles ? Comment on peut être accepté et vivre dans cette République ? Et la République ne répond pas. Et puis deuxièmement, il y a d'autres Français qui ne connaissent pas la religion musulmane, avec une montée de l'islamophobie dans notre pays qui est insupportable et incroyable. Et donc là aussi, il faut dire aux Français, voilà, nous avons des concitoyens de confession musulmane, ils sont dans notre pays, ils sont Français, voilà les règles pour y vivre. Il y a des questions qui sont posées sur le port de voile, pas le port du voile, le financement des mosquées, bref, un certain nombre de revendications légitimes de la communauté musulmane, et il faut que la France y réponde. Et celui qui doit y répondre, c'est le président de la République.
Donc c'est d'abord un discours, une ligne qui soit fixée au plus haut niveau.
Et puis qu'on fixe des règles. Voilà, parce que les élus que nous sommes, moi le premier, on fait ce que l'on peut avec ce que l'on pense pour devoir faire. Mais souvent, on est borderline. Moi, j'ai dans le livre, il y a des financements qui ont été accordés, que j'ai accordés, qui sont, je pense, incompatibles avec la loi de 1905. Et donc, il faut bien qu'on dise aux élus, voilà ce que vous avez le droit de faire. Et aux musulmans, voilà ce que vous avez le droit de faire. Et aux Français, qu'ils acceptent sans trop de difficultés la religion musulmane dans notre pays.
Merci beaucoup François Pupponi. Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent possession de la banlieue aux éditions du Cerf. Merci à vous.
Europe 1.
Louis Chédid est en pleine forme, il va sortir un nouvel album, 11 chansons dont il nous parle en avant-première. A tout de suite.
Europe 1. Vous êtes avec Patrick Cohen de 9h à 10h pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Louis Chédid est de retour, sachez-le, et notez sur vos agendas un nouvel album fin février et une vingtaine de concerts en avril-mai, dont deux dates à l'Olympia à Paris. Bonjour Louis Chédid.
Bonjour.
Comment allez-vous à l'aube de cette grande année ?
Bah, très très bien, parce que ce disque sort le 28 février et c'est vrai que je reçois un accueil tellement merveilleux que je suis très heureux.
Excité et impatient. Comme sont impatients tous ceux que vous avez accompagnés par vos chansons depuis tant d'années et vous avez vous-même excité cette impatience en dévoilant il y a quelques semaines l'une des 11 nouvelles chansons de votre album. Exactement.
Un baiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il, appelle le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne. Écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime.
Ouais.
Simple et beau, ben l'intime, oui, et le collectif.
Il me semble que c'est un des thèmes principaux de chacun d'entre nous, j'ai l'impression.
Oui, j'ai envie d'ajouter, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime,
exactement,
qu'on les aime.
Ouais, exactement.
Et
ouais,
encore, j'ai toujours aimé.
Exactement.
C'est aussi dans votre nouvel album. Ouais. C'est le
vrai
retour
que
à
chez
l'essentiel.
Moi, c'est un thème assez récurrent et assez premier. Enfin, c'est le thème premier, parce que j'ai l'impression que tous les gens que je connais, en tout cas, quand ils sont en manque d'amour, ils sont pas bien, et quand ils sont en plein d'amour, ils sont heureux, quoi. Donc je pense que c'est vraiment la chose qui nous attire le plus.
Même si votre album s'ouvre par une séparation.
Oui, exactement. Mais oui, justement, c'est le revers de la médaille. Mais c'est une séparation sur une musique enlevée, comme ouais, on dit. Moi, j'aime bien faire des choses graves, comme j'avais fait Anne Masseran, mais avec une musique quand même qui porte le propos, qui paraphrase pas, vous voyez, et qui n'est pas aussi grave que le texte.
Qui ne rajoute pas du pathos.
Oui, voilà, qui ne rajoute pas du pathos. Et c'est vrai que si j'avais su, le premier titre, c'est ça. Ouais.
J'ai eu la chance d'écouter cet album, de savourer ces 11 nouvelles chansons superbes, avec une belle diversité musicale. Si j'avais su, vous venez de citer ce titre, avec des guitares gypsy et des violons parfois arabisants. Un début en piano-voix sur Mon enfant intérieur, une touche d'électro sur Volatile, et un bijou, La fille sur le banc, salsa lente et un grand chagrin. Ouais. C'est une chose vue ?
Ah oui, c'est une chose vécue. Dans mon quartier à Paris, dans le 14e, il y a à côté un endroit où je vais de temps en temps, le cimetière Montparnasse, que j'aime beaucoup, parce qu'il y a quand même du très beau linge là-bas. Il y a Maupassant, il y a Romain Gary, enfin, tu vois, il y a plein de gens comme ça. Il y a ma mère aussi. Et un jour, donc, je me baladais, et puis je me suis assis sur un banc, et j'avais mon petit carnet, j'écrivais des phrases comme ça, et puis il y a une fille qui est passée, qui m'a vu, qui m'a reconnu, et puis elle a commencé à me parler. Et en fait, cette fille était dans un chagrin d'amour absolu. Elle venait de se faire quitter. Et donc, je sais pas, j'ai fait un peu de... J'ai dit des choses positives dans le style...
Vous lui avez parlé.
Peut-être, oui. Peut-être qu'au contraire, ce type, il vous a rendu service. Peut-être dans 6 mois, vous vous direz, c'est génial qu'il m'ait largué, parce que j'ai rencontré... l'amour encore plus grand, etc. Donc voilà, enfin, on a discuté pendant un petit moment ensemble. Et je suis rentré à la maison et j'ai fait cette chanson.
La chanson est magnifique. Et voilà, vous êtes l'homme qui parle à des inconnus devant le cimetière de Montparnasse.
Ah ouais,
Louis Chédid. Ouais. Redevenir un être humain en levant les yeux de son smartphone. C'est l'une des maladies de notre époque, Louis
Chédid. Ah oui, et j'en suis une victime aussi. Hein. Je vois pas aujourd'hui comment je pourrais me passer de cette petite boîte-là qui me... C'est un fil à la patte complet. Donc c'est difficile. Il faut arriver à lever la tête de temps en temps et puis regarder autour. pour voir des êtres humains, parce que la petite boîte, c'est pas humain du tout, hein, ça c'est clair.
L'inspiration ne se tarit pas chez
vous après
plus de 45 ans d'écriture de chansons.
Non, pas du tout. C'est le mental qui fout la merde dans l'artistique, c'est-à-dire que si on réfléchit trop, si on se laisse pas aller à l'instinct pur, ben voilà, on a 10 000 raisons pour se mettre des barrières, des obstructions, de dire je l'ai déjà fait. Oui, évidemment, on est toujours un peu sur les mêmes thèmes. De toute façon, les thèmes, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a l'amour, la vie, la mort, enfin, et puis voilà, quoi. Et puis le pouvoir, et puis l'argent, et puis des choses comme ça. Enfin, mais disons que les grands thèmes, c'est l'amour, la vie, la mort. Et sorti de là, bon, ben, il n'y en a pas d'autres. Et donc, on tourne toujours autour de ça, mais il y a moyen de faire de mieux en mieux. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire de mieux en mieux, d'essayer. Et parfois, on n'y arrive pas, mais parfois, on y arrive.
Album à découvrir le 28 février, mais vous restez avec nous, Louis Chédid. Grâce à vous, on va remonter le temps dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen.
Toujours en compagnie de Louis Chédid dans l'attente de son nouvel album. Louis Chédid, on fait un petit flashback dites dans Ainsi soit-il.
Oui, oui, avec plaisir.
C'est l'un de vos tubes d'ailleurs.
Ah bah oui, oui.
L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement.
Occasion de rappeler que vous avez débuté dans le cinéma,
oui,
comme monteur. Dans vos jeunes années, Louis Chédid, vous parliez déjà de pollution et d'écologie.
Il y a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes, pauvre beefsteak.
Pauvre beefsteak ou pauvre planète, vous avez été l'un des premiers à chanter ça, je pense. Toujours d'actualité aussi, la nazi-nostalgie et l'historique hystérie.
Ouais. Anne, ma sœur, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, seul cafard.
Anne, ma sœur, vous avez aussi magnifiquement chanté La douleur de l'absence.
Ouais.
Tout passe, tout casse, tout lasse, tout s'efface, t'aurais pu attendre. Que ton heure vienne.
Les absents ont toujours tort. Ouais. C'était en souvenir de Patrick Devers.
Oui, oui, absolument. Parce que je l'ai connu d'une manière très merveilleuse, parce que j'étais absolument inconnu. Moi, je faisais mon premier disque et j'étais passé à l'Olympia en vedette anglaise, c'est-à-dire vraiment trois chansons que je chantais. Et la grosse vedette, c'était Nicole Croisy à l'époque. Et Patrick était venu voir Nicole Croisy, en fait, et il était tombé sur moi, et quelqu'un m'avait dit hey, il aime bien ton disque, etc. Donc j'étais très étonné, et puis vraiment, j'avais un succès, même pas d'estime, enfin, tu vois, c'était vraiment... Et donc on s'est vu à ce moment-là. Alors on s'est croisés quelques fois dans notre vie ensuite, etc., mais j'étais vraiment très sensible à ce type-là, et il était tellement écorché, à la fois tellement enfant, quoi. Il était très touchant, et voilà. Et évidemment, ça s'est très... Enfin, pour nous qui restons vivants, ça s'est très mal terminé. Peut-être que lui était content de partir, mais en tout cas, ça s'est très mal terminé. Et je me souviens que moi, ça m'a vraiment bouleversé. Voilà. Et donc, il y a une chanson qui... Moi, c'est ma façon de me soigner, hein, c'est de faire des chansons, en fait.
Et ce sont des chansons qui nous accompagne depuis longtemps. Ouais, je le disais, il y a beaucoup de chansons que vous avez composées, écrites et chantées qui nous suivent depuis tant d'années. Vous avez eu aussi, un succès de discothèque.
Oui.
Ouais. Alors, 5 minutes.
On est entré dans la banque.
Hold up,
ouais.
Et un peu plus tôt, alors j'ai eu la curiosité de réécouter votre premier album,
oui,
parce qu'il est disponible depuis quelques mois sur les,
oui,
sur les plateformes.
Oui, exactement.
Balbutiement,
oui.
1973.
Ouais.
Il y avait ceci.
À l'école, vous êtes le roi. Vos copains vous montent du doigt.
Mettez sabots, Laisse ton magot.
Mais déjà.
C'était pas mal pour des balbutiements, oui, Louis Chédid.
Oui. Alors, le titre était peut-être pas très bien trouvé, parce que mettre en titre sur un album balbutiement, ça veut dire attention, c'est pas encore ça.
Oui, mais, c'est pas au point. Ça veut dire,
oui, c'est pas très,
écoutez-moi, mais c'est pas au point.
C'est pas très vendeur, en fait. Mais j'aime beaucoup ce disque. Enfin, c'est vraiment le premier disque. C'est-à-dire que le premier disque, on n'a rien fait. Donc, tout ce qui sort de vous, vous trouvez ça bien, quoi, parce que vous avez envie de tout mettre. Après, on apprend un peu, mais voilà, c'est vraiment des disques d'enfance. Et quand je le réécoute, je l'aime beaucoup, ce disque.
Il y a déjà beaucoup d'amour dedans, oui. Il y a des chansons d'amour.
Ouais, ça, oui.
Et alors, ce qui est très frappant, puisqu'on fait là, comme ça, en quelques minutes, ce panorama des 45 ans, c'est qu'aujourd'hui... Je reviens à votre album qui va sortir. Ouais. Vous avez gardé une voix de jeune homme.
Ouais, ce qu'on me dit.
Mais par quel miracle, qui monte toujours très haut.
Qui peut même monter un peu plus qu'avant. Parce que...
Un peu plus qu'avant.
Peut-être.
C'est rare, c'est vrai.
Bah non, parce qu'en fait, ça se travaille tout ça. Mais disons que plus on avance, soit on devient un vieux croulant complètement inutilisable, disons. Pour 10 000 raisons, on peut devenir comme ça, mais soit au contraire, on rajeunit. Moi c'est un peu mon cas. Je veux dire, je suis beaucoup plus excité par la vie qu'avant, parce que je me suis débarrassé, je pense, de pas mal de choses qui m'encombraient la tête, des choses matérielles ou des choses peu importantes finalement. Quand vous avez vécu un certain nombre d'années, vous vous dites... bon, ben ça va, ça c'est ouais. Pas des problèmes, ça se résout, etc., machin, etc. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait, et puis c'est ce qu'on vit, quoi. Donc voilà, et je pense que ça vous fait effectivement rajeunir.
Donc le cap des 70 ans,
ah, oui, oui.
Vous l'avez passé sans problème.
Ah ben je l'ai passé, j'ai 72, moi.
Sans problème.
J'y pense pas trop, hein, non plus. je me dis, parce que c'est sûr que ça commence à devenir sérieux, mais oui, parce que dans la tête, c'est pas du tout le cas.
Nouvel album, Louis Chédid, fin février. Une tournée en avril-mai.
Ouais,
et
ouais.
C'est deux dates à l'Olympia fin mai.
Ouais,
merci,
26 et 27.
Merci d'être venu à Europe 1.
Bah, c'est moi, c'était très agréable.
Demain, la nouvelle jeunesse de Louis Chédid.
Merci Patrick.
Europe 1.
Merci d'avoir suivi cette émission préparée par Marina Pruzès, réalisée par Guillaume Vasseau avec Julien Blanc et Valentine Gélin. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain 9h dans quelques minutes, le grand rendez-vous avec les Échos et iTélé. Bonjour Mickaël Darmon.
CNews, bonjour, c'est Christian Jacob.
Et c'est CNews, mais oui,
bien sûr.
Et c'est un chef de parti qu'on n'a pas entendu depuis plusieurs semaines.
Absolument, qui a choisi donc le grand rendez-vous pour s'exprimer pour la première fois. Christian Jacob, président de LR. Comment la droite peut-elle sortir de sa retraite forcée?
Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.